tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur la présentation d'un livre. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier livre de Serge Joncourt, Nature humaine. Dernier livre quand même qui date de 2020. Normalement, il en fait sortir, il en fait éditer, une fois un livre tous les deux ans. Donc normalement, il devrait sortir un livre assez vite de lui. Serge Joncourt, peut-être l'avez-vous rencontré à Gap, parce qu'on l'avait reçu il y a quelques années, une dizaine d'années, pour le livre L'homme qui ne savait pas dire non. Et depuis, il a pas mal, donc je vous dis à peu près un livre tous les deux ans, L'amour sans le faire, Chien-loup, et donc Nature humaine en 2020. Et c'est ce livre avec lequel il a eu le prix Fémina. Alors, Nature humaine, c'est un livre qui raconte les 30 années d'histoire de la France rurale, des années 1976 jusqu'au premier jour de l'an 2000, à travers l'histoire d'une famille paysanne, dont la ferme se trouve dans le Lot. Le Lot, c'est vraiment le département de Serge Joncourt. Je crois qu'il est né là, il a encore une partie de sa famille là, il y va très souvent. Et là, donc, c'est au hameau des Bertranges, où vit la famille Fabrier. Donc, je vous parle de la famille du livre Nature humaine. Les personnages, un couple de paysans qui sont à peu près à l'âge de la retraite. Au début du livre, ils travaillent encore à la ferme, mais ils vont la quitter pour s'installer seuls dans une maison. Ils ont 4 enfants qui, au début du livre, vivent à la ferme, un garçon et 3 filles. Et les 3 filles, au fil des années, vont quitter la ferme pour travailler et vivre en ville. Elles n'envisagent pas de rester ce qu'elles appellent un bled perdu. Le fils, par contre, Alex, lui, restera à la ferme pour continuer le travail des parents. Et c'est lui le personnage principal du livre. Si les filles se sentaient libres d'envisager leur vie ailleurs, elles le devaient à leur frère. Il se préparait à être le fils sacrificiel, celui qui endosserait le fardeau de la pérennisation. Et oui, sur ses épaules pèse l'avenir de la ferme. Sacrificiel, c'est assez fort comme mot, et pourtant, il est heureux à la ferme, hein, ça lui correspond bien, ça correspond bien à son caractère. Je vous lis le premier chapitre du livre. Donc, je vous ai dit que ça se situait, le livre, des années 76 à la fin 1999, et le premier chapitre, qui est très court, se passe en 1999. Donc, c'est la fin de l'histoire. Et après, on aura des retours en arrière et on repartira de l'année 1976 jusqu'en 1999. Jeudi 23 décembre 1999. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit des bêtes, ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Les Fabriers y avaient vécu durant 4 générations, et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses 3 sœurs, 3 lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps. Elle avait été faite de rires et de jeux, entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville, il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que 4 sur tout le coteau. Alexandre et ses parents, et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies. Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Anton, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il alla jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ses rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même les entendre de nouveau, surgis de l'enfer à près de 5 kilomètres de là. C'était atroce ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse vrillant depuis le fond de l'espace. Un astéroïde assourdissant qui aurait fondu sur la Terre pour venir s'écraser là. En repartant vers la ferme, il se demanda si les gendarmes n'étaient pas en planque de l'autre côté du vallon, au-delà des pans de terre rasés. Peut-être que depuis hier, il l'observait, en attendant d'intervenir. Il regarda bien, ne décela pas la moindre lueur, pas le moindre mouvement, rien. Il était sûr, cependant, d'avoir été repéré hier soir, pas par la caméra en haut du poteau blanc, mais la petite au-dessus de la barrière du chantier. Même s'il avait fait gaffe, en prenant le détonateur, après avoir mis de la toile de jute sous les semelles comme Xabi le lui avait dit. La centrale à béton était paumée en plein territoire calcaire, à des kilomètres de toute habitation. Néanmoins, il faudrait qu'il y retourne, d'autant qu'à cause de ces vents forts, prévus pour durer, selon Météo France, le chantier serait fermé toute une semaine. Ça lui laisserait largement le temps de retirer la bande de la caméra ou d'en vérifier l'angle pour sauter toute angoisse et de faire ça calmement. Alexandre s'assit à la grande table, posa ses coudes comme si on venait de lui servir un verre, sinon que devant lui il n'y avait rien d'autre que ce panier à fruits toujours désolant en hiver. Il prit 2 noix, les cala l'une contre l'autre dans sa paume, et n'eut même pas besoin de serrer fort pour qu'elle se disloque dans un bruit retentissant. Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. À peu de choses près, tout aurait pu se jouer autrement. Alexandre repensait souvent à Constance, à ce qu'aurait été sa vie s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ou s'il l'avait suivie dans sa manie de voyager, de courir le monde et de toujours bouger. À coup sûr, il n'en aurait pas été là, mais il ne regrettait rien. De toute façon, il n'aimait pas les voyages. Je vous ai lu ce chapitre parce que dans ce chapitre, on a déjà quelques détails qui nous donnent quelques indications. On est donc le 23 novembre 1999, à la fin de l'histoire. Alex est seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête ni de qui que ce soit. Pas le moindre signe de vie. On est pourtant dans une ferme où on avait l'habitude d'y trouver 60-80 vaches. Un autre détail important, un vent violent souffle. Alex entend des bruits d'explosion, de foreuse sur le chantier, sur un chantier. Quel chantier ? De quoi s'agit-il ? Il craint que des gendarmes soient en planque, en train de l'observer, prêts à intervenir. Qu'est-ce qu'il a fait pour être surveillé par les gendarmes ? Il est question d'une centrale à béton, où Alex est allé pour voler un détonateur. Il doit retourner sur le chantier pour retirer la bande qu'il a mise sur la caméra, donc pour qu'il ne soit pas filmé. Et il est question aussi de 2 autres personnages, Cressac, qu'il qualifie de vieux fou, et Constance, qui a fait partie de sa vie à un moment. Voilà, donc ces détails donnés dans un premier chapitre assez court sont là pour créer une sorte de suspense, et le retour en arrière, justement, va commencer au 2e chapitre, qui se situe, lui, le 3 juillet 1976. Et après, on suivra les événements d'une façon chronologique. Alors, pourquoi Jeancourt a-t-il choisi ces 25 dernières années du XXe siècle? Parce que justement, c'est une période où on a vécu une sorte d'emballement au niveau du progrès, de la technologie. Cette technologie qui a entraîné des bouleversements énormes dans notre vie quotidienne et surtout dans la vie des paysans qui jusque-là travaillaient avec des méthodes assez anciennes. Et cette accélération du progrès va produire justement des dérèglements importants dont on paye le prix aujourd'hui. C'est ça qui intéresse Jeancourt. Avant de voir les problèmes posés par le progrès dans de nombreux domaines, je voudrais m'attarder quelques instants sur le héros du livre, Alexandre. Il est donc seul à la ferme pour travailler. Aidé cependant par ses parents qui, même s'ils ont quitté la ferme, continuent à y travailler un petit peu, à donner des coups de main. Alexandre aime sa condition de paysan. Il aime sa ferme, ses animaux. Il aime la nature. La vie citadine ne l'attire pas du tout. Et on verra que ça a des répercussions dans sa vie. Un jour, sa sœur qui est devenue étudiante à Toulouse, lui présente un groupe de jeunes activistes. Donc il fait connaissance de ce groupe. Il est assez timide et comme il veut se faire accepter, il ne refuse pas la demande qu'ils lui font. Étant donné qu'il est paysan, ils savent qu'il a de l'engrais dans sa ferme, de l'engrais qui est stocké justement, et ils veulent que Alexandre leur donne un petit peu d'engrais pour en faire des explosifs. Il y a, je ne sais pas quel produit il y a dans l'engrais qui permet d'en faire des explosifs si on fait une alliance avec d'autres produits. Donc, ils veulent faire des explosifs pour faire sauter des transfos IDF ou des machines de chantier, des camions. Alexandre, qui va se laisser un petit peu embarquer par cette histoire. Je voudrais maintenant que l'on s'attarde un peu sur quelques événements qui ont commencé justement à poser problème dès les années 1975 jusqu'en 1999. Oh, je ne vais pas vous citer. On ne va pas s'attarder sur tous les problèmes, quelques-uns seulement. Le téléphone, par exemple. Jusque-là, il y avait simplement quelques personnes qui avaient le téléphone, quelques commerces. On allait téléphoner chez un commerçant parce qu'on n'avait pas de téléphone chez soi. Et là, on commence à installer le téléphone partout. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'un personnage important qui a déjà été nommé dans le premier chapitre. Le vieux Cressac, qui lui refuse le progrès et en particulier le téléphone. Un jour, par exemple, Alex, qui est chez lui, voit des fourgons de gendarmes qui se dirigent vers la ferme de Cressac. Il fonce sur sa mobylette et trouve le vieux assis, son fusil posé sur les genoux. Je vous lis le passage, page 21. Bon sang, Joseph, mais qu'est-ce qui se passe ? Le vieux semblait muré dans une colère froide. Il lâcha avec rage. « Tout ça, c'est de votre faute. »« Mais de quoi vous parlez ? De votre connerie de téléphone. »« C'est les gars des PTT qu'ont appelé les gendarmes ?»« Vous ne leur avez tout de même pas tiré dessus ?»« Pas encore. » Alexandre était d'autant plus désarçonné que le vieux chevrier lui parlait tout le temps de non-violence ces derniers temps. « Joseph, le fusil, c'est pas vraiment l'esprit de Gandhi. Je t'en foutrais de la non-violence, ça paie plus la non-violence. Regarde en Corse et en Irlande, il faut tout péter pour se faire entendre. Mais vous n'avez pas tiré sur des gars qui installaient le téléphone. Le téléphone, ça fait 2 millénaires qu'on vit sans. Je veux pas de ça ici. » Le père Cressac se replongea dans sa colère, balançant à Alexandre qu'il n'était qu'un fils de propriétaire et que c'était à cause d'eux qu'on tirait ces fils de caoutchouc au bord des chemins. Ses parents n'étaient rien que des matérialistes qui voulaient tout posséder, 2 bagnoles, des clôtures neuves, des mangeoires en aluminium, la télé. deux tracteurs et des caddies pleins aux mammouths. Et maintenant le téléphone, ça va s'arrêter où ? Alors vous leur avez tiré dessus ou pas ? Va pas raconter de conneries dans tout le canton, toi. J'ai juste scié leur putain de poteau, des saloperies de troncs traités à l'arsenic. Vous n'allez pas me fourrer de l'arsenic le long de mes terres. C'est avec ce bois que les Américains nous ont ramené le chanvre en 40. Toutes leurs caisses de munitions en étaient infestées. Ces troncs-là, c'est la mort. Mais le fusil... Le fusil, c'est celui de mon père. C'est une terre de résistants ici. Et si ton grand-père s'est retrouvé prisonnier, moi, mon père était dans le maquis. C'est pas pareil. Mais tout ça, c'est de vieilles histoires. Ah, c'est sûr qu'il faut pas compter sur toi pour résister. Je t'ai vu avec ton tracteur vert et ta moto bécane. Ce monde-là te bouffera, tu verras. Tu te feras bouffer comme les autres. Quel rapport avec le téléphone ? Le téléphone, c'est comme le Larzac, Cresse-Malville, c'est comme toutes ces mines et ces aciéries qu'ils ferment. Tu vois pas que le peuple se lève, de partout les gens se dressent contre ce monde-là. Faut pas se laisser faire. Et des Larzac, il y en aura d'autres, crois-moi. Si on dit oui à tout ça, on est mort. Faut le refuser, ce monde-là. Faut pas s'y vautrer comme vous le faites, vous. Sans quoi, un jour, ils vous planteront une autoroute ou une centrale atomique au beau milieu de vos prés. Alexandre s'était assis en face du bonhomme, se demandant si 70 ans, au fond, c'était si vieux que ça. Il le regardait, sans savoir s'il fallait voir en lui ce que son père appelait un vieux con, ou s'il s'agissait d'un genre de prophète de malheur, un communiste chrétien qu'on réduisait à un fadorle, un chevrier malmené par un monde en plein bouleversement. Un prophète de malheur. Disons plutôt que c'est un homme réaliste qui a une vision réaliste de l'avenir. Il est là, le personnage de Cressac, il est là pour dire aux autres où on en est. Justement, quels seront les effets du progrès pour qu'ils fassent attention. Il refuse le monde qu'on veut lui imposer. Il veut préserver les traditions. Par exemple, il dit... Je veux la permanence d'un monde ancien, de l'époque où dans les fermes on faisait des fromages pour soi et on ne vendait que le surplus, où le projet de chaque ferme était l'autosuffisance. Je ne veux pas faire mes fromages de chèvre dans un laboratoire avec une charlotte sur la tête et un masque de chirurgien. Un personnage très intéressant, Cressac. Serge Joncourt a un moment dit de lui: ce pauvre vieux, c'était l'emblème du paysan intemporel, de ceux qui depuis toujours auront vécu sur ces terres sans autre arrière-pensée que de s'en nourrir. « Faut pas se laisser faire, » il dit à Alex. « Des Larzac, il y en aura d'autres. Ils vous planteront une autoroute un jour, une centrale atomique au beau milieu de vos prés. » Et quand même bien prémonitoire, ce Cressac. Ses paroles sont bien prémonitoires. À cette époque, on manifestait contre une centrale nucléaire, Cresse-Malville. Il y a combien de centrales nucléaires en France aujourd'hui ? Je suis allée chercher sur Internet, il y en a 19, avec 57 réacteurs nucléaires. Et là, on manifeste pour une centrale. Ce que Cressac refuse aussi, c'est l'implantation d'un mammouth pas très loin, un des premiers hypermarchés. Dans le temps, les sources étaient potables, dit-il, mais maintenant ils tarissent les nappes pour que des crétins comme vous aillent en acheter en bouteille chez Mammouth. Ils vous vendent l'eau au prix du pinard et vous, comme des cons, vous l'achetez. Le Mammouth, justement, un des premiers hypermarchés, c'est le début d'un changement radical dans l'alimentation avec la venue des hypermarchés. Un exemple sur lequel Serge Joncourt insiste pas mal, la viande hachée. La viande hachée a un succès fou à cette époque. C'est le début de la viande hachée. Les tartares, les burgers, les McDo, les steaks congelés, sans parler des vieux qui ont plus de dents ou des mômes. Même dans les restaurants, c'est la mode du haché. Alors pour répondre à cette demande, le père d'Alexandre envisage d'augmenter leur troupeau de vaches en achetant des vaches de réforme, des vieilles vaches laitières dont la viande ne serait pas d'une très bonne qualité. Mais à quoi bon la qualité pour faire du steak haché ? Du steak haché, bien souvent congelé, qui pourrait faire le tour du monde sans jamais se décongeler, puisqu'on pouvait le conserver durant des mois. Alors bien sûr, Alexandre, lui, il a l'habitude de vendre des bêtes dont la viande est d'une super qualité. Et puis il y a des bruits qui commencent à courir au sujet des vaches laitières. En Angleterre, ils font de drôles de trucs. Ils donnent à manger des farines animales à leurs vaches. Serge Joncourt, vous l'avez deviné, fait allusion à une des plus graves crises qui a secoué le monde agricole à la fin des années 80, la crise de la vache folle, à laquelle il ajoute une autre crise, celle du veau aux hormones. À force de ne plus se soucier des bêtes, de tourner le dos à la campagne, la France avait découvert que les trois quarts des veaux étaient élevés dans des cages noires et infectes. Et là, on les gavait d'anabolisants pour qu'ils grossissent de 50 kilos en 3 mois. Ce grand dérèglement était né de la politique agricole commune, de ces sphères déconnectées du terrain où l'on parlait toujours d'accroître la production. Mais pour les paysans, le résultat était là. Pendant des mois, les médias n'avaient parlé que de ça, des élevages de veaux issus de vaches laitières parquées dans des cellules. Des bêtes piquées comme des cyclistes ou des haltérophiles pour gagner du muscle et surtout pas de gras, parce que là aussi l'époque voulait ça. L'homme moderne venait d'identifier 2 nouveaux ennemis, le pain et le gras. Partout dans les magazines on les dénonçait, le pain faisait grossir et le gras tuait en douce. Il est très juste quand même Serge Joncourt, hein. Après avoir parlé donc de ces problèmes dus à la viande hachée, dus à la façon dont on nourrit les vaches laitières, Serge Joncourt insiste aussi sur un autre problème de l'époque, sur la violence qui traverse cette période. À présent, la violence, il ne voyait plus que ça, entre les brigades rouges et la bande abadère, les prolétaires armés et l'armée révolutionnaire bretonne, sans parler de l'ETA ou des brigades d'extrême droite. Tous les jours, il y avait de nouvelles bombes et des flagrations. Dans cette litanie de la terreur, il avait repéré ce grand pylône d'EDF déchiqueté dans le Gers et une énième explosion au barrage de Malloz. Et oui, c'est l'époque de nombreux attentats. Je me rappelle l'attentat de Bologne à la gare de Bologne qui avait fait quelque chose comme 80 morts. Bien d'autres problèmes, donc, nés avec la fin du millénaire, sont abordés plus ou moins longuement par Serge Joncourt. Je vous en donne quelques-uns, à ceux que je viens de citer, donc. Le nucléaire, avec l'explosion de Tchernobyl en 1986, la société de consommation, la mondialisation, les autoroutes qui vont quadriller la France, l'exode des jeunes vers la ville. Un autre, l'arrivée du Roundup. C'est important pour les paysans, le Roundup, parce que dès le départ, il a été vu comme un produit miraculeux. On connaît aujourd'hui les effets dévastateurs. Et puis, il va parler, bien sûr, du réchauffement climatique, de la pollution. Un jeune qui fait partie du groupe des activistes auxquels Alex a donné des sacs d'engrais remet justement un jour en question leur action autour du nucléaire. Il a des paroles très sages, je crois. Et Tchernobyl, t'en as entendu parler ? Putain, mais c'est pas vrai, vous recommencez ? Vous regardez le doigt et pas la lune ? Le problème de Tchernobyl, c'est pas le nucléaire, c'est les Russes. Vous voyez pas qu'à tous vous acharner contre le nucléaire, on ne parle jamais des vrais problèmes ? Les pluies acides, la couche d'ozone, les gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, les crevasses sur la banquise et le rapport Meadows. Bon sang, ça fait 25 ans qu'on sait que la société de consommation est le principal péril de la planète. Le club de Rome, ça vous parle pas non plus ? Faut pas avoir la mémoire courte, les gars. Et oui, est-ce que la pollution, c'est un problème plus important que le nucléaire ? Il pose la question. L'année 1976 a été une année bien particulière. L'été 76 a été dévasté par une sécheresse calamiteuse, en particulier pour les paysans. Une période de grande sécheresse que le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, a qualifiée de calamité nationale. Donc, le livre commence avec une grande période de sécheresse. Je vous lis un passage où est décrite cette sécheresse. Lundi 5 juillet 1976. Entre cette sécheresse qui n'en finissait pas et ces coups de chaud sur le Causse, on vivait un juillet de feu. Les animaux sauvages eux-mêmes montraient des comportements bizarres. La nuit, les chevreuils venaient boire près des maisons. Ils lapaient le fond d'eau qu'on leur avait laissé dans des baquets. Mais bien souvent, les sangliers les renversaient pour se vautrer dans la boue mince que ça produisait. Dans les champs, les vaches se tenaient en grappe à côté de l'abreuvoir. Les vaches détestent la chaleur. Alors elles attendaient le soir pour se traîner jusqu'aux mangeoires, foutant des coups de corne dans les tubes galvanisés pour expier leur colère. Dans les collines, les sources étaient à sec. Les réserves pluviales n'étaient plus que des plaques de terre craquelées. La nuit, toutes les fenêtres restaient ouvertes à la ferme. Vers 2 heures du matin, les autres dormaient sans doute, mais Alexandre ressentit le besoin de sortir faire un tour. Dehors, la chaleur était brassée. Le long des chemins, par endroits, ça sentait la mort, l'odeur prenante du cadavre de bestioles égarées. Il pensa au père Cressac qui passait sa première nuit au poste. Il pensa à ces chèvres qu'il faudrait nourrir demain, en plus de les traire. Il n'aimait pas s'occuper des chèvres. Quand on est habitué à vivre avec des vaches, les chèvres s'apparaissent petits comme des poules. Parfois, il avait peur de finir comme ce vieux Rougeau, de se mettre peu à peu à lui ressembler. Si ça se trouve, dans 50 ans, il en serait là, à se méfier de tout, à vivre dans son petit monde, comme tous avaient toujours vécu ici. Dans cette nuit de demi-lune, la nature semblait souffrir. Les arbres reprenaient leur souffle, habités par la hantise de voir le soleil se lever une fois de plus, d'endurer l'étreinte d'un air de nouveau étouffant. Avec sa manie de prédire le pire, le père Cressac avait peut-être raison. Peut-être que le progrès ne valait rien de bon, comme le disait ce politique à col roulé, pour bien montrer qu'on manquerait d'eau avant la fin du siècle et que la solution serait de se remettre tous au vélo, comme en Chine. Peut-être que ces illuminés voyaient clair et que le soleil, un jour, ne se coucherait plus. Par contre, rappelez-vous les rafales de vent du premier chapitre, les prémices d'une tempête qui a dévasté la France les 26 et 27 décembre 1999, donc à la fin du livre. Sécheresse en 1976, tempête en 1999, l'une et l'autre dévastatrices. Deux phénomènes qui alertaient sur le changement climatique et dont on n'a pas tenu compte, bien entendu. Voilà, donc Serge Joncourt a vraiment fait un livre qui résonne avec la vie d'aujourd'hui. Fin du XXe siècle, une époque charnière, avec une société qui perd la tête en voulant toujours plus. On peut dire que le monde a basculé à cette époque. Et c'est comme ça qu'on en arrive à notre époque avec tous les problèmes que l'on sait aujourd'hui. Je ne terminerai pas sans vous parler un petit peu de la nature, hein. Nature humaine, le titre. Un sujet que l'on retrouve souvent dans les pages du livre, ce qui n'est bien normal puisqu'il s'agit du monde rural. Alexandre, je vous l'ai dit, est très attaché au monde dans lequel il vit. Serge Joncourt dit de lui qu'il observe la nature comme un peintre. Et c'est vrai que les agriculteurs façonnent la nature, la recréent. Donc il y a chez eux un côté artistique. Constance, une fille de la ville, donc qui a eu une histoire d'amour avec Alexandre, découvre un jour les beautés de la nature aux côtés d'Alex. Constance découvrit ce bruit de faux que font les vaches quand d'un coup de langue, elles cisaillent une herbe bien longue, fauchant les tiges juteuses. C'était puissant et fauve comme bruit. D'un bout de bois mort, elle improvisa un bâton et avec Alexandre, ils menèrent le troupeau vers la prairie au-dessus. Les petits veaux semblaient doux comme des peluches. Constance n'osait pas les approcher à cause des regards que lui lançaient les mères. Alexandre l'aida à en caresser un, puis un autre. Elle avait envie de les prendre dans ses bras. Ils avaient de longs cils émouvants sur de grands yeux étonnés. Jamais elle n'avait tenu un gros animal comme ça dans ses bras. C'était inédit et câlin. Elle se releva et ferma les yeux pour inspirer l'air à plein poumon. Alexandre la regarda faire, émerveillé par la façon dont son corsage se tendait sur ses seins. « Tu sais, cette prairie-là, si tu reviens dans 2 mois, elle sera envahie par le parfum de la menthe fraîche. Elle sera couverte de millions de petites fleurs de menthe sauvage. »« Vraiment ?»« Oui, l'été, tout le coteau est recouvert de millions de fleurs bleues. Quand tu marches dedans, c'est comme flotter dans un océan de menthe fraîche. » « Je ne te crois pas. Reviens en juillet, tu verras. » Donc Constance est ravie de découvrir la nature, elle, une fille de la ville, qui n'a jamais vécu à la campagne. Une nature qui, Serge Joncourt veut nous le démontrer, une nature qui est toujours là, près de nous, mais avec laquelle on a peut-être vécu une sorte de divorce à la fin du siècle. C'est vrai qu'entre l'homme et la nature, les relations n'ont pas trop cessé de se tendre. Mais heureusement, à notre époque, je crois qu'on assiste quand même à un retour vers la nature. Est-ce que c'est un phénomène dû à l'épidémie de Covid? C'est là un autre sujet. Il faudra dire peut-être à Serge Joncourt de faire un livre sur le Covid. Voilà, c'était donc « Nature humaine » de Serge Joncourt, publié chez Flammarion en 2020. Prix Femina 2020. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.